vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Émission numéro 42, des ardoises, framboises, with some noise, with some noise. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans Vous l'avez bien connu, nous recevons Sandra Blum, qui tient la galerie d'art de la rue des Charpentiers à Strasbourg, dans un magnifique appartement du XVIIIe siècle, avec plein de beaux artistes alsaciens, et d'ailleurs, notamment, des peintres sur ardoise.
Bonjour Sandra Blum.
Bonjour Ambroise Perrin, merci de m'avoir invité.
Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, quelle idée, qu'est-ce qui vous est passé par la tête de faire, d'inviter autant d'artistes pour travailler sur des ardoises?
Alors d'abord, l'histoire de l'ardoise, c'est rigolo parce que c'est ce qu'on voit sur les toits. Et puis surtout, c'est la réminiscence de l'école. Sur mes cahiers d'écolier, j'écris ton nom, Liberté. Et sur l'ardoise, je fais des additions avec le bruit de la craie qui crisse.
Adorable.
Oui, alors ça fait comme ça bisquer le professeur. Mais c'est surtout l'idée de réunir beaucoup de monde dans une exposition, ça a un avantage énorme. Dans ma galerie, Ambroise, j'ai 52 artistes.
C'est énorme quand même, hein. C'est une grande galerie?
Non, c'est pas une très grande galerie, mais chacun a décoré deux ardoises, qui sont quand même petites, 20 x 30 cm. Et donc, 52 artistes à un vernissage qui amènent tous leurs copains ou leurs copines. Deux ou trois amis qui viennent un petit peu en retard, mais qui viennent quand même. Et puis souvent encore, comme c'est des jeunes, les parents ou les grands-parents, la grand-mère qui est tellement fière de sa petite fille qui sort des beaux-arts et qui a fait un tableau. Ce qui fait que j'ai fait un vernissage avec 250 personnes.
Ah oui, ça devait être très animé ce soir.
Ah ben, c'est très bien.
Je crois avoir entendu dire qu'il faisait très très chaud.
Alors, il faisait très chaud, effectivement. Mais alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est pas qu'il y ait 250 personnes, c'est qu'il n'y ait pas 250 acheteurs. Ah, c'est ça le problème.
Quel dommage.
Ah bah oui, c'est toujours ça pour les artistes, parce qu'on fait une expo, c'est quand même pour vendre, hein, parce que c'est quand même ça qui compte. Et en avant. Alors, les grands-mères, quand même, c'est bien, parce qu'elles achètent les tableaux de leurs petites filles. Donc, ça fait quand même tourner un petit peu la boutique.
Oh, pas que les grands-mères, allez, les jeunes aussi, les moins jeunes.
Oui, oui.
Les amis,
après le
les
vernissage,
inconnus.
Après le vernissage, il y a les vrais artistes qui viennent. Alors, soit ils sont jaloux parce qu'ils se disent « mince, j'aurais pu faire la même chose » et tout. Soit ils trouvent ça très nul parce qu'ils sont jaloux aussi et puis ils trouvent ça très mauvais et tout. Donc, c'est un peu compliqué de gérer les gens qui viennent. J'ai bien mis un livre d'or à l'entrée pour leur demander de mettre des réactions, mais souvent... c'est d'une platitude étonnante, quoi.
Ah, mais c'est parce que je suppose que vous ne pouviez pas inviter plus d'artistes dans cet espace qui n'a que 70 mètres carrés. À un moment donné, il faut faire des choix.
Oui, mais je pense que ma prochaine exposition, je vais exposer des capots de voiture, puisque maintenant, on ne peut plus rouler dans Strasbourg. Donc, les gens se débarrassent de leur voiture, la mettent à la ferraille. Donc, je vais leur demander de dévisser le capot de leur voiture, de les peindre et on va exposer
donc
les capots de voiture.
C'est le prochain format imposé, en fait. Donc, à propos de format, comment les artistes ont pris la chose quand on leur donne une ardoise et en disant « c'est cet objet, c'est un format imposé, débrouillez-vous ».
Écoutez, Ambroise, vous êtes journaliste, vous savez comment ça se passe. D'abord, ils vous disent « oh ben non, c'est nul », enfin, ils le pensent, c'est nul, mais ils n'ont pas trop envie de faire un truc imposé. Et bon, moi, en tant que galériste d'art, je fais des références littéraires. Je leur parle de Georges Perec, par exemple. Les contraintes, la disparition, où on écrit un roman sans utiliser la voyelle E. Et là, je leur dis, voilà, vous avez un format très petit. Vous avez de l'habitude de faire des tableaux de 3 mètres sur 2. Et là, vous allez faire 20 sur 30 cm avec... alors, il y a des gens qui répètent ce qu'ils font 3 mètres sur 2 sur 20 x 30 cm. C'est pas mal, c'est intéressant, c'est rigolo. Mais il y en a d'autres qui inventent carrément des choses. Ils prennent la perceuse et ils font des trous dans l'ardoise.
Ah, donc, c'est pas mal ça. Donc ils se sont tous appropriés l'ardoise à leur manière, soit en renouvelant leur technique et leur savoir-faire, soit en inventant des choses nouvelles parce qu'ils avaient une nouvelle, un nouveau support à tester.
Ben, moi, j'encourage fortement les artistes à inventer des choses auxquelles ils ne pensaient pas eux-mêmes. Même si j'arrive, si je pouvais arriver, c'est que l'artiste devrait, mais il me livre toujours le truc une demi-heure avant le vernissage, donc, mais deux ou trois jours avant, ils me disent qu'est-ce qu'ils ont fait, je le vois, et je leur dis « Ah, c'est super !» Et je donne l'idée à un autre artiste et eux prennent l'idée d'un autre. Donc, ils sont obligés d'échanger les idées. Donc, de faire des choses d'un style qui n'est pas le leur.
Oui, ils travaillent sous couverture, en fait.
Voilà. Alors, oui. Ah, mais l'anonymat, c'est ce qu'il y a de plus... Moi, j'aime bien les artistes qui ont des pseudonymes parce que c'est quand même une preuve d'humilité. C'est souvent un moyen de vendre des choses sans payer au fisc, mais ça, il ne faut pas le dire à la radio. Et c'est aussi une façon de se... Alors, ça dépend. Si on est un artiste, si on prend le nom d'une bagnole, par exemple, comme pseudonyme, je ne sais pas, Picasso. Donc là, effectivement, on a l'air un peu bête parce qu'on voit un tableau de ce monsieur Picasso et on pense vroom, vroom, vroom à une voiture. Donc là, c'est un petit peu embêtant. Mais si on prend un pseudonyme et qu'on change à chaque fois, on est un peu comme Émile Ajar. On n'existe pas, mais en même temps, on peut être génial. Donc, ce sont des gens assez intéressants. Sous réserve d'avoir un public qui vienne et qui suive l'affaire.
Quoi. C'est sûr. J'ai quand même ouï dire, parce que j'étais cachée dans un petit trou de souris pendant le vernissage,
non, mais je vous ai
pendant
vu
l'exposition,
au vernissage, hein.
J'ai quand même ouï dire qu'ils ont tous enlevé leur masque et ils étaient tous là sous leur vrai visage et sous leur vraie technique.
Ah ben c'est fini le temps de Covid, même si ça revient. Hein. Effectivement, alors, oui, c'est une bonne idée, là. Les journalistes, souvent, ont des bonnes idées, Ambroise. Parce que faire une exposition où tous les tableaux seraient sous des masques. Donc, on les verrait, il faudrait soulever le masque pour voir ce qu'il y a derrière.
Ça, c'est une bonne idée. Vous auriez dû, Sandra Blum, y penser il y a un an, peut-être.
Ben, vous faites ça avec
le prochain variant du virus.
Avec les capots de voiture.
Ça va être un petit peu plus difficile de s'habiller en capot de voiture.
Mais non, moi j'ai une idée. Non, mais attendez, on fait du brain trust comme ça à la radio.
Absolument.
Ma prochaine exposition, donc, des capots de voiture peints, et ils seront tous recouverts avec des housses de voiture. Ça ne coûte pas cher, hein, je sais, ça coûte une vingtaine d'euros, les housses anti-poussière ou anti-verglas l'hiver. Et donc, les gens sont obligés de... Ah, mais j'ai une idée. Maintenant, pour stationner à Strasbourg, contre la poussière, on met les housses de voiture. Donc, les gens de Striteo, s'ils passent, ils ne peuvent pas voir le numéro. Ils ne voient pas si vous avez payé ou pas votre stationnement à 39 euros la demi-heure. Et donc, c'est une bonne façon de... Ah, ça serait rigolo, ça. Je vais inviter mes 52 artistes à venir en voiture au centre-ville de Strasbourg, de se garer et de payer les deux premières heures pour ne pas avoir d'ennui. Et de mettre une housse sur leur voiture. Et donc, il y aura 52 voitures à Strasbourg avec des housses sous lesquelles on ne peut pas lire les plaques d'immatriculation.
Mais avec chacune une couleur différente ou un traitement différent, c'est ça?
Oui. Alors, les housses peuvent être peintes, artistiques. Et on met dessus Alain Yund pour lui faire plaisir. Comme ça.
Avec et tout le monde repartira à vélo.
En écharpe verte. Tout le monde part en vélo. Et en même temps, ça donnera des idées à tout le monde de pouvoir stationner au centre-ville sans avoir de PV. Alors, je ne pense pas que ce soit interdit d'avoir une housse sur la voiture, mais je pense que la législation doit dire que la voiture doit être identifiable. Enfin, ils trouveront bien une astuce. Mais enfin, le temps d'aller au tribunal administratif et tout, ça va mettre 6 mois ou 1 an.
Les voitures auront été vendues.
Peut-être. Ou alors, les gens auront 1 an de stationnement gratuit au centre-ville. Bon, là, on s'éloigne un petit peu de parce que je suis venu, mon cher Ambroise, pour faire la publicité de ma galerie. Hein, vous comprenez quand
Mais
même.
Mais absolument, il faut toujours parler de toutes les expositions et prendre toutes les opportunités au vol.
Voilà. Vous avez d'autres questions? Ben voilà un journaliste qui a préparé son interview.
Le journaliste a un gros blanc. Comment les artistes ont exploré leur nouvelle matière?
Alors ça, c'est très différent. Je pense que souvent, j'ai parlé avant de réminiscence hein, de l'enfance. Moi-même, je suis une Alsacienne pure sucre. J'ai fait mes études à Strasbourg. J'allais au Resto U. Je suis quelqu'un de très banal. Hein, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Mais en même temps, mes souvenirs d'enfance reviennent souvent dans le travail artistique que j'essaye de faire. Et je pense que la plupart des artistes qui viennent et qui sont confrontés à ce cliché qui est la plupart n'ont jamais appris à écrire sur une ardoise avec de la craie, ça n'existe plus, ou avec une plume sergent-major dans un cahier Clairefontaine à grand carreau, avec la marge à gauche rouge. Non, c'est la génération stylo à billes.
Non, mais j'ai vu plein d'ardoises dans les commerces à la rentrée cette année. Oui. Ça repart. Hein.
Oui, mais c'est des
ou
ardoises.
Ça s'est jamais arrêté.
C'est électronique.
Non, pas du tout. Trucs, des ardoises comme nous en avions quand nous étions très jeunes.
Ah, c'est formidable. Donc il y a encore des profs qui reviennent.
Il y a encore des profs qui reviennent à ça parce qu'on peut s'amuser beaucoup dessiner.
Est-ce que l'ardoise, moi je me demande ça au journaliste qui est bien informé, Ambroise, est-ce que les ardoises auront un uniforme comme les élèves prochainement, qui seront tous...
Mais oui, elles ont toutes un petit trou quelque part.
En Corée du Nord, là, ils auront tous un pantalon bleu foncé et une chemise blanche.
Non, elles auront un petit uniforme remarquable. Je pense que ce qui est intéressant pour les ardoises, c'est de leur mettre un uniforme remarquable ou un petit point de distinction, comme le petit trou qui les accroche au clou. Et je pense que ce qui c'est peut-être plus intéressant pour chacune ardoise de montrer ses différences. Oui. Est-ce que vous les avez associées? Je suis terre à terre, hein, comme journaliste. Est-ce que vous les avez associées, vous les avez groupées par affinité, les ardoises?
Alors c'est compliqué, effectivement, de mettre les 52 multipliés par 2, donc 104 ardoises, dans trois pièces et de faire une sorte d'ordonnancement. Alors, je vais vous dire le truc que j'ai fait. Bien sûr, il y avait, soit par les couleurs, soit par la notoriété, Veille de Liche qui est plus chère que les autres, par d'autres choses comme ça. Non. Je me suis dit, je vais peut-être faire l'ordre alphabétique des prénoms. Et puis, c'était un peu compliqué, c'était pas très chouette et tout. Alors, en fait, je l'ai fait d'après la couleur des chaussettes. Chaque fois que je rencontrais les artistes, je regardais. Alors, la plupart ont des chaussettes noires, hein, comme Eddie Mitchell. Mais il y en a d'autres qui ont des chaussettes bleues, ou rouges, ou jaunes, ou pieds nus. Alors, ceux-là, je les mettais au début. Et j'ai mis les chaussettes noires à la fin. Donc, c'est, en fait, c'est un classement tout à fait non rationnel, peu rigolo et que personne ne peut déceler.
Et on retourne finalement du blanc vers le noir à la fin, parce que noir, c'est noir.
Oui, mais il y a beaucoup d'espoir. Parce que j'aurais aimé voir un artiste qui peigne l'ardoise en blanc et qui écrive en noir dessus, justement.
Mais il y a une ardoise comme ça, il me semble avoir remarqué vendredi, il y a une ardoise blanche avec des petits points noirs et une ardoise noire avec des petits points blancs.
Oui, ça faisait un petit peu zèbre. On ne savait pas si c'était le zèbre blanc avec les rayures noires.
Oui,
ou
en fait, une fois qu'on avait bu un petit verre de blanc, on ne savait plus qui était quoi, c'est
voilà.
Ça hein.
On était noirs à ce
difficile.
Moment-là.
Oui. Il y a quelques chromatismes un peu éblouissants. Il y a de charmantes efflorescences aussi.
Ah, vous avez bien regardé l'expo.
Oui. Il y a des brassées de couleurs. Il y a tout un tas de détails qu'on a pu remarquer. Enfin, j'espère.
Oui, oui, oui. Vous savez... mon nom, Sandra Blum, fait tout de suite rêver un petit peu les gens qui viennent dans mon expo, parce que je fais toujours référence à James Joyce, au personnage de Blum, bien sûr, et je ne parle pas de mon arrière-grand-père, Léon, le champion... En 1936, hein, des congés payés, du vélo et du Front populaire. Et lorsque je leur dis que, en fait, mon nom devrait s'écrire B-L-O-O-M, ça fait toujours rire un peu les gens parce que, voilà, alors je leur dis, mais lisez Finnegan's Wake. Je ne sais pas, vous, en tant que journaliste, vous avez lu Finnegan's Wake?
Et non,
malheureusement. Et voilà, c'est très... Alors, c'est un truc... Même les gens qui parlent très bien l'anglais, c'est très compliqué à lire. Mais il y a un traducteur français qui donc, a traduit, il a mis 40 ans à traduire Finnegan's Wake, et de l'avis de tous les spécialistes de Joyce, c'est beaucoup plus intéressant en français qu'en anglais. Voilà, tout ça pour dire que même avec mes ardoises et mon exposition, parfois l'interprétation ou la perception des gens est plus intéressante que ce qu'il y a vraiment sur l'ardoise, parce que bon, parfois c'est un peu fumiste. Un peu n'importe quoi. Bon, mais c'est bien, c'est artistique, c'est au milieu des autres, donc ça passe.
Voilà. Vous êtes un peu dur avec vous-même, ma chère Sandra.
je suis un peu réaliste, hein, parce que je vois bien... mais le public n'est pas dupe. Ce sont des gens, bien sûr, intelligents, mais je vois, ce qui se vend, c'est ce qui est... bien, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, on ne sait pas. Et dans 50 ans, ce qu'on trouve moche aujourd'hui...
Oui, c'est une vaste définition. Puis ça dépend un petit peu des courants, ça dépend des couleurs, ça dépend...
De la notoriété, de la place qu'on a au mur. Est-ce que vous pourriez me le refaire, mais un petit peu plus foncé, parce que mes rideaux sont clairs. Et voilà, donc voilà. J'ai eu des clients comme ça, hein, qui me disaient, est-ce que vous pourriez contacter l'artiste de m'en refaire un autre,
mais... Alors, est-ce que vous prenez les commandes?
Alors,
pour les voitures, autant pour les capots de voiture que pour les ardoises.
Écoutez, en tant que galliériste, il faut bien payer le loyer, il faut payer le vin blanc en cubiténaire. Et effectivement, on prend des commandes quand il y a des gens qui sont un petit peu exigeants comme ça. Voilà, c'est comme... la personne qui rentre chez un libraire d'occasion et qui dit « il me faudrait 2,20 m de livres pour remettre dans la bibliothèque du haut. Qu'est-ce que vous voulez comme livre ?»« Ah ben n'importe quoi, juste relier cuir. » Voilà. Ça existe. Hein. Ça existe. Et donc, le libraire en question que je connais leur a dit « Écoutez, vous allez à Emmaüs, vous allez trouver tout ce que vous voulez, mais pas chez moi. » Voilà. Donc...
Après tout, pourquoi pas, on est tous différents, on cherche tous des choses différentes, et pourquoi pas accepter tout le monde?
Ah non, mais il ne s'agit pas de refuser...
Je suis toujours terre à terre.
Oui, non, mais il ne s'agit pas de refuser des visiteurs et encore moins des clients.
Non, je parlais d'accepter les voix différentes, et les goûts différents, et les réactions différentes.
Non, mais au bout d'un moment, on s'ennuie. Quand on va dans... Alors, la pire des choses, c'est que les galliéristes, comme moi... On ne va jamais voir le travail des autres dans les galeries. Parce que...
Ouais, je ne suis pas sûre que ce soit vrai, ça.
Si.
Je crois pas.
Non, on s'ennuie, on voit les autres. Et puis, ou alors, on est un peu fou furieux parce qu'on dit, tiens, ça, c'est une bonne idée, j'aurais pu l'avoir. Et puis, on n'a pas le temps, on fait nos trucs dans son coin. En fait, je crois que les galliéristes ont un petit côté un petit peu... vénal. Moi, je me sens très vénal, hein, avec ces histoires-là. Bien sûr, je suis une grande artiste méconnue, et en fait, je devrais passer ma journée à peindre, à lire, Rembrandt, Caravage. Enfin, j'ai des périodes comme ça, puis tout d'un coup, j'expose des ardoises avec des petits points rouges et blancs. Donc je me dis, bon, bref, oui, c'est pas mal. Enfin, on est en 2023. Hein,
vous êtes complètement dépressive, ma pauvre fille.
Je pense que quand une exposition touche à sa fin, on est un peu dépressif, oui. C'est comme un enfant qui part, quoi. Enfin, un enfant, c'est un grand mot. Mais une expo dans laquelle... vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de coups de fil que j'ai dû passer pour réunir les 52 personnes, et le nombre d'emails échangés, et le nombre de fallait convaincre. Et, ah, mais si lui vient, je ne viens pas. Hein, et voilà, et tout. Et dire, ah, vous savez, il y aura machin et machin. Ah ouais, ah oui, oui, bon, alors d'accord, je viens et tout. Mais vous prenez combien le pourcentage? Ça, alors, il y a ceux qui osent demander, et puis il y a ceux qui n'osent pas demander. Alors, ceux qui n'osent pas demander, je leur donne beaucoup. Et ceux qui osent demander, que dalle. Pas que dalle, mais pas beaucoup. Ça dépend. Mais le truc aussi, tout le monde le sait. Hein, moi, je suis un galliériste depuis tellement longtemps. Hein, j'ai ouvert ma galerie il y a 2 ans. Donc, ça, je suis vraiment... Parce que souvent, les galliéristes, ils durent 3 mois et puis c'est fini. Les clients ou les visiteurs, ils vont contacter l'artiste sans passer par la galerie en disant bon, quand l'expo sera finie, je vous rachète votre ardoise et tout. Mais je dois dire, et ça me fait très plaisir, c'est que la plupart des artistes, ils sont super honnêtes. Ils sont bien, ils sont généreux, ils comprennent que c'est aussi grâce à ce travail. Et pour faire plaisir aux clients, ils vont faire ça en douce de côté. Et après, ils me donnent un coup de fil et ils me disent « Bon, je te dois 30% de trucs que j'ai vendus parce que, tu sais, le gars là, avec l'anneau dans le nez et le chapeau rond, là, il me l'a acheté quand tu avais le dos tourné. » Donc ça, ça fait plaisir de voir des choses comme cela. Oui. Mais bon, je suis une galliériste, j'ai fait l'histoire de l'art. Et bon, c'est un métier de passeur, hein, ce qu'on fait, de travailler comme ça.
Moi, je ne pensais pas que le métier de galeriste était aussi dépressif et vénal. Ce n'est pas l'idée que j'en avais, moi, ma chère Ambroisie.
Alors là, vous me faites plaisir comme ça, mais bon, Sandrasi peut-être. Non, mais alors, je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit encore à la radio. Quand je ferme ma galerie, je mets la clé dans la poche et j'ai des culottes de bottes de moto et un aiglon sur mon blouson. Elle avait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. J'ai une Suzuki 650. Imaginez que j'ai passé mon permis à 50 ans, au milieu de petits jeunes là, qui ont 18 ans et demi là, de banlieue, et qui friment et tout. Et moi, je m'amène avec ma tête d'Edith Piaf. Et je dis, voilà, alors bien sûr, au code, je l'ai eu du premier coup, et j'ai fait mon permis moto. Et... voilà, cheveux au vent.
Et vroom.
Vroom, vroom. Alors, bon, bien sûr, il faut avoir le casque, mais je fonce. Alors, parfois, je fais des tours vers 1h ou 2h du matin sur les petites routes. Alors, je sais que c'est un peu...
C'est moins dangereux parce qu'il n'y a plus personne.
C'est plus dangereux parce qu'il peut y avoir un obstacle sur la route. Mais alors, je me fais des petites pointes à 130,5. Et c'est quand même assez excitant, la vitesse, quoi. De foncer comme un boulet de canon, c'est assez excitant. Voilà, de découvrir cette frilosité de...
Alors, je vous invite tous à foncer fissa, cheveux au vent et blouson haut de cuir ailé à la galerie Sandra Blum. Qui enlèvera son masque et remettra son vrai visage pour vous accueillir.
Écoutez, les journalistes sont vraiment très sympas de faire comme cela. Et donc, c'est donc sur le bruit de la moto que nous allons conclure cette émission. Merci Sandra Blum.
Merci Ambroise Perrin.
Et à la semaine prochaine. C'était l'émission numéro 42 de « Vous l'avez bien connu » des ardoises framboises with some noise. Aujourd'hui, notre invitée était Sandra Blum à la technique Thomas Marinelli. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30, rediffusion le dimanche à midi. Et mon nom est Ambroise Perrin.